Vous écoutez En Profondeur sur CKUT 90.3 FM. Il est maintenant 17h28. Nous accueillons maintenant Simon pour son hebdomadaire chronique des abatteries d'anonymes. Salut Simon.
Salut Pauline, ça va bien?
Ça va bien et toi?
Ben oui, bonjour tout le monde. Donc une chronique toujours bien remplie. Il se passe plein de choses, même au Canada, au Québec. Disons que ça brasse pas mal ces temps-ci, donc je vous parlerai pas de... du niqab. Franchement, je pense qu'on en entend assez parler.
Ouais, je pense aussi.
Dans les médias, mais par contre, je parlais pas directement de ça, mais autour de ça, il y a toutes sortes de conséquences, si on veut. On pense que c'est un peu le résultat du nouveau stratège conservateur qui est engagé pour faire une genre de stratégie de wedge politique, donc de politique de division. Donc, plus aller chercher des éléments pour faire peur aux gens qui sont plus sensibles. Et ça marche. Si on se fait au sondage, ça marche très bien. Donc, il y a eu cette décision-là du NICAB qui veut, pour booster un peu le vote conservateur. Il y a eu un autre élément qu'on pense qui est issu de la wedge politique de M. Linton Crosby, le fameux stratège. Il y a eu une révocation des citoyennetés la semaine dernière, donc une première en vertu de la nouvelle loi qui encadre et qui permet les révocations de citoyenneté. Donc, beaucoup pourraient dire, mais ça n'a pas rapport, ça vient comme ça par hasard, c'était dans l'agenda législatif probablement, mais non. Ce sont des décisions unilatérales et arbitraires du ministre. Donc, il peut annoncer qu'il va révoquer une citoyenneté et ça se fait très rapidement. Et donc, comme par hasard, ça tombe en pleine campagne électorale.
Forcément.
Mais évidemment, ça n'a pas eu tout le retentissement que l'histoire du NICAB. Ça, peut-être ça touche une corde moins sensible ou ça a été moins bien mis en scène par les stratèges du gouvernement conservateur. Mais sinon, pour finir sur le NICAB, on voit le Bloc québécois qui embarque à fond dans cette histoire-là, et ça semble être payant même, donc c'est un peu inquiétant.
Mais là, il marche pas, il court, quoi.
Ah, il court, vraiment.
Je pense qu'ils vont plus ils vont trouver du pétrole.
Ils sont à la vitesse du son. Il y a eu l'histoire dans leur fameuse publicité sur le web, une tache de pétrole qui se transforme en NICAB. Il y a eu un candidat, M. Jacques Tremblay, qui faisait les louanges de Mme Le Pen sur les médias sociaux. Il a démissionné. Une autre candidate bloquiste, Chantal Saint-Onge, qui appuyait une manifestation de Pegida et qui a plaidé que « Ah, je connais mal les réseaux sociaux ».
Oui, elle a dit qu'elle ne savait pas qu'est-ce que c'était que Pegida.
Ben non, c'est une bonne idée de se lancer en politique quand on ne connaît pas les choses de base comme ça. Sinon, même, en tout cas, on compare de plus en plus le bloc au FN, c'est peut-être exagéré, mais il y a quand même des éléments inquiétants. Il y a eu d'ailleurs, je crois que c'est la semaine passée, vous pouvez trouver ça en ligne, une entrevue avec Marine Le Pen d'une radio de Québec. L'émission s'appelle Sylvain Bouchard. Bouchard en parle sur le FM 93 à Québec. L'entrevue est facile à trouver en ligne, ça s'appelle Marine Le Pen, présidente du Front national. Attention, la crise des migrants en France, un avertissement pour le Québec. Et c'est à vomir, honnêtement. Ça dure 20 minutes, une longue entrevue de fond, extrêmement complaisante. Je ne l'ai pas écouté au complet, j'en avais pas la patience.
T'as vomi avant?
Pardon?
Est-ce que tu as vomi avant la fin de l'interview?
Non, j'avais pris des médicaments avant. Mais je pense que c'est une première au Québec qu'on a une entrevue d'un parti d'extrême droite européen qui est encensé comme ça, avec une entrevue live sur une radio québécoise.
Et normalisée, surtout.
Et normalisée. Je pense pas que c'est à CKUT qu'on va voir ça bientôt. Enfin, j'espère que non.
Non, non. Logiquement, Marine Le Pen n'a pas répondu à nos invitations.
Je ne crois pas. N'a pas le bon profil. Sinon, je passe tout de suite à mon sujet principal. Donc, on n'a pas le choix d'aller en Europe ces temps-ci, depuis plusieurs mois, à cause de l'exode massif de personnes qui fuient, entre autres, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. Je ne vais pas vous parler de la crise en tant que telle, mais plutôt des réactions autour de la crise. Donc, les aspects juridiques, des aspects sémantiques même, des termes qui ont été utilisés pour désigner les personnes qui fuient la guerre. Je vais y aller avec les plus dégueulasses pour commencer. Vas-y. Donc, moi, je pense que le pire que j'ai vu depuis plusieurs semaines, c'était une éditorialiste du Sun, un genre de feuille de chou britannique, qui, elle, parlait de vermine à éliminer et qui invitait les gens à tirer sur les bateaux et l'armée britannique à bombarder même les embarcations. Rien de moins. Il y a Sarkozy, je pense, c'est ton préféré.
Sarkozy, l'ancien président de mon cher pays, oui.
Ouais, ou peut-être futur président aussi.
On verra, mais je n'espère pas, mais on verra.
Lui parlait, en parlant de cet exode de milliers de personnes, d'une fuite d'eau à colmater. Donc, tout simplement.
Ah oui, et c'était pas juste avant qu'il y ait la photo du petit Thaïlan justement sur une plage et que ça avait fait un gros gros scandale parce que on parle d'une fuite d'eau et qu'est-ce qu'on retrouve après? Ben
Mais
un
je pense que
petit
c'était
enfant
pas
sur une
mal
plage.
avant. Ça fait quand même un certain temps. Mais oui, je peux te rassurer, c'était avant. Je pense qu'aujourd'hui, certains ont pondéré leurs propos, mais pas tout le monde, vous allez voir. Une expression qu'on entend souvent dans les médias, des politiques, des commentateurs de toutes sortes, un cheval de Troie. Donc, sur les routes de migration, donc les milliers de personnes se seraient infiltrées par des terroristes qui visent non moins à islamiser l'Europe et éventuellement à la faire exploser. On a pu lire des propos aussi modérés que ça. Un autre commentaire un peu étrange qu'on entend souvent, on s'occupe même pas de nos propres pauvres au Québec, au Canada ou dans les pays européens. Donc
Ça
pourquoi
ferait
est-ce
pas
qu'on
mal, ça.
aiderait des étrangers ou des étrangères? Ce qui est un peu ironique, c'est que ce genre de commentaire-là vient en général de personnes de droite. Par exemple, au Québec, voudrait couper dans le BS, criminaliser l'itinérance. Et là, oups, subitement, on s'intéresse aux pauvres et aux personnes défavorisées pour un argumentaire raciste. Le commentateur, je pense, le plus virulent sur la migration actuellement, c'est vraiment le premier ministre hongrois, M. Viktor Orban. Sarkozy a vraiment des croûtes à manger s'il veut atteindre son niveau. Donc pour lui, ben c'est l'islamisation de l'Europe. Il répète souvent, c'est plein de terroristes qui veulent venir voler les jobs et ça pourrait venir faire perdre les valeurs morales chrétiennes à l'Europe. Ça, c'est texto et il dit vraiment ça. Juste pour le rassurer, donc il faut noter que la plupart des personnes qui traversent la Hongrie la traversent, ne veulent pas s'y arrêter parce que d'abord, c'est pas un pays qui est accueillant. Et la plupart des gens rêvent plutôt d'Allemagne, de France, d'Angleterre, de pays scandinaves. Donc on peut le rassurer. Et quelques chiffres aussi pour le rassurer encore une fois. À date en 2015, on estime à 350 000 personnes le nombre de personnes qui ont migré vers l'Europe. C'est 0,45% de la population européenne qui atteint 750 millions de personnes environ. Je pense pas qu'on peut parler d'envahissement.
Je pense qu'on en est encore loin, ça va.
On en est encore très loin. Ici, on arrive avec un plan européen de redistribution, de répartition des personnes pour l'accueil. Ça va rester des petites minorités partout. Et si on veut comparer, en Turquie, il y a 2 millions de réfugiés actuellement. Au Liban, il y en a 1 million. L'Irak, qui lui-même est en guerre, il y en a 200 000 actuellement. Donc, on repassera pour l'envahissement. Un petit débat sémantique. Est-ce qu'on doit parler de réfugiés ou de migrants?
C'est une grande question.
C'est une grande question qui a toutes sortes d'implications juridiques, des fois des connotations idéologiques aussi. La plupart des médias dans le monde, au Québec aussi, on parle de migrants. Par contre, il y a le réseau Al Jazeera qui a publié récemment un genre d'éditorial pour faire une mise au point dans lequel elle indiquait que dorénavant, elle allait utiliser le terme réfugié pour des raisons. Si je prends des extraits qui sont dans l'éditorial, je juge que migrant, c'est pas un terme approprié, que c'est presque un terme clinique, statistique, que ça dépersonnalise un peu la situation. On juge que c'est une terminologie qui évacue complètement le contexte de guerre en ramenant ça à un simple déménagement, donc une simple mouvance de personnes, alors qu'effectivement,
Un
il y a tout un contexte
contexte
de
politique
violence,
derrière.
d'exploitation. Certaines personnes sont réticentes à utiliser le terme réfugié parce que réfugié, effectivement, c'est un statut légal, c'est un statut juridique précis qui est donné à une personne. Donc, quand on parle de personnes qui n'ont pas encore reçu le statut de réfugié, effectivement, si on veut être très, très straight sur les termes, on ne pourrait pas l'utiliser. C'est un peu la position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui est un peu l'autorité morale sur ces questions-là. Elle a peur. Ben, en fait, le Haut Commissariat a une position assez ambiguë sur est-ce qu'on doit les qualifier de migrants, de réfugiés. On a peur de galvauder le terme réfugié, de lui faire perdre un peu de sa valeur, de la valeur à son statut, qui a été, on nous le rappelle, assez difficile à faire reconnaître depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un autre argument du Haut-Commissariat des Nations Unies, un peu étrange, peut-être peur de saper le soutien des populations envers les systèmes d'asile si on mélange tout. Ça, je suis plus ou moins d'accord. Enfin bref, on trouve important de distinguer migrants de réfugiés pour des raisons historiques et juridiques, mais on continue au niveau de nuance en nuance, on ne veut pas choquer non plus. On juge que dans le contexte européen actuel, il y a à la fois des réfugiés et des migrants. On prend soin de préciser que les migrants, les personnes migrantes peuvent fuir leur pays pour des bonnes raisons telles que la désertification ou la grande pauvreté. mais ce qui ne peut pas les qualifier comme réfugiés en tant que tels. Le Haut-Commissariat des Nations Unies milite quand même pour donner à l'exode actuel le statut latin qui s'appelle prima facie, qu'on utilise en droit, qui fait en sorte qu'on, ben, qui donne de facto le statut de réfugié à tout le monde qui actuellement utilise les itinéraires classiques dans les Balkans et en Europe de l'Est. Puis on rappelle évidemment que dans la fuite dans un contexte de guerre, c'est un motif suffisant pour reconnaître le statut de réfugié. Peut-être juste rappeler, avant de terminer là-dessus, que le Haut-Commissariat pour les Nations Unies pour les réfugiés n'a pas préséance sur les États demeurent souverains dans l'attribution du statut de réfugié.
Comme toujours en droit international.
Comme toujours, donc au gré des différents gouvernements, des différentes allégeances, ben, c'est ça qui a préséance finalement sur les conventions internationales. Maintenant, qui accueillir? Qu'est-ce qu'un réfugié? Qui s'en occupe? Quelles sont les responsabilités? Il y a eu cette semaine un plan européen de répartition des réfugiés. Donc, il y a eu une rencontre d'urgence, si on veut, entre les différents gouvernements. Donc, il y a un plan qui est sorti. C'est un plan à très court terme qui concerne une partie des personnes réfugiées qui sont déjà en Europe. Donc, il n'y a pas d'échéancier à plus long terme pour le restant de l'année ou pour les années à venir. On a décidé, je ne sais pas de quelle manière, peut-être en évaluant les capacités, les ressources disponibles sur place. Donc, le plan concerne 160 000 personnes. 30 000 seraient envoyées vers la France, 40 000 vers l'Allemagne. En France, ça a occasionné toutes sortes de réactions, évidemment. Donc, l'Association des maires de France, représentée par le maire de Troyes, donc Cheval de Troyes, je ne sais pas s'il y a un rapport.
Toujours un rapport.
Toujours. Qui, lui, parle au nom des maires de France. Lui, il dit ben, c'est à l'État de payer les municipalités. Il n'est pas question qu'on dépense un seul euro là-dessus. Il a ajouté ben, dans ma ville, à Troyes, il n'y a pas de place pour ça. On n'en veut pas de réfugiés. Point final. C'est assez clair. En France, toujours au Canada, dans certains pays européens, on se demande un peu qui on va accueillir. Donc, dans certains pays, on dit on va accueillir seulement des personnes d'origine syrienne. Et dans certains autres endroits, on dit seulement des personnes d'origine syrienne et chrétienne.
C'est-à-dire on juge sur la religion de la personne, en fait.
Oui,
clairement.
On juge sur la... Exactement, c'est en plein ça. Et il y a toutes sortes de justificatifs un peu galvaudés pour ça. Donc, Harper disait la même chose. Quand c'était le temps d'établir un plan canadien pour l'accueil de réfugiés syriens. Et, lui, il prétextait que les chrétiens sont davantage persécutés que les personnes musulmanes dans le conflit qui nous intéresse. Si je reviens à un maire de France, un petit maire sans importance, la ville, c'est Rouen, je ne connais pas, s'appelle Yves Nicolin. Lui, attention, ça décoiffe. Ce que je souhaite, c'est avoir la certitude que ce ne sont pas des terroristes déguisés. Demander à ce que ce soit des chrétiens peut représenter une garantie suffisante. Donc...
C'est vrai qu'il n'y a pas de chrétiens terroristes. C'est bien connu comme il n'y a pas de juifs terroristes. C'est totalement bien connu.
Ben, tu as bien compris. Tu as bien fait tes leçons.
C'est ça.
C'est
hein?
Tout à fait exact. Donc, chrétiens gentils, musulmans...
Méchants.
Terroristes. Méchants, c'est ça.
Méchants musulmans.
Plusieurs pays dans le monde, donc encore plusieurs pays européens aussi, ont juste que... Seules pourraient être admises comme réfugiées les personnes qui ont été directement persécutées par un régime et non des personnes qui fuient en contexte de guerre. Donc, ça élimine beaucoup de monde parmi les personnes qui transitent, qui essaient de rejoindre les pays européens actuellement. Ça peut être ça et parfois des groupes sociaux identifiés, donc religieux, comme je disais tantôt, ou idéologiques ayant fait partie d'un parti politique, par exemple, des choses comme ça. Des personnes handicapées dans des endroits où on persécute les personnes handicapées. Donc, mais il faut que ce soit dûment identifié et qu'on se qualifie pour entrer dans telle catégorie. En Suisse, on a une petite nuance comme ça. On peut accueillir actuellement des personnes non persécutées directement par un régime et fuyant la guerre, mais on juge qu'une fois le pays d'origine redevenu sûr, on expulse les gens.
Ils repartent chez eux, quoi.
Ben voilà, c'est ça. Vous avez bénéficié de notre accueil. Vous avez goûté à notre magnifique culture. Maintenant
vous cassez.
Au revoir. Voilà, c'est ça. En Grèce, qui est assez particulier, parce que, bon, ils ont pas de gouvernement. Dans le fond, ça change tout le temps. Donc, il n'y a, ouais. a pas de directive claire. ce qui semble dominer actuellement, c'est personnes syriennes qui fuient la guerre. Oui, on accepte. Irakiens, personnes afghanes, soudanaises, etc., non. Donc, on peut mettre dans des camps pour réfugiés actuellement, mais on ne donne pas de service, on n'a pas de statut. Il me reste très peu de temps, je crois.
Et oui!
Juste dire, est-ce que j'ai une minute à peu près?
Tu as une minute.
Bon, Harper, suite justement à la fameuse photo de ce petit enfant échoué sur une plage turque, Harper avait été dans l'eau chaude parce qu'on accusait le gouvernement canadien d'avoir refusé une demande d'asile de la famille.
De la famille,
ouais. Quelque chose comme ça. Harper avait dit quelque chose qui m'avait un peu dérangé. Il avait dit ben ces personnes-là n'avaient pas été reconnues comme réfugiées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, j'ai fait des vérifications. Ce papier-là existe. Il y a des postes mobiles, si on veut, qui sont déployés d'urgence, par exemple, à certaines frontières entre la Hongrie et la Serbie. Donc, on peut, si on est chanceux, rencontrer ces employés-là du Haut-Commissariat qui sont identifiés et obtenir un papier. Mais on peut le perdre par la suite. Il n'y a pas tant de chances que ça qu'on l'aille. Et de toute façon, ce n'est pas un papier qui est reconnu officiellement par les États pour être accueilli comme réfugié. Donc, Harper dit n'importe quoi. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup, Pauline. Merci à tout le monde.
Ben, merci, Simon.